Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Le pape François, hier, place Saint-Pierre de Rome, a canonisé 2 martyrs, 4 prêtres et 1 religieuse, saluant leur cœur généreux et fidèle. Parmi eux, figuraient 2 Français, le martyr Salomon Leclerc, un prêtre tué pendant la Révolution en 1792, et la carmélite Élisabeth Catas, connue sous le nom de Sœur Élisabeth de la Trinité, morte en 1906 à l'âge de 26 ans. Qui était Élisabeth de la Trinité? Quelle fut sa spiritualité? Pourquoi cette jeune femme a-t-elle été canonisée? C'est ce que je vous propose de découvrir ensemble ce matin. Voilà pour cette émission donc à la découverte d'Élisabeth de la Trinité. Je reçois ce matin le frère Philippe Raguis. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes carme du couvent des Carmes de Toulouse, tout simplement. Et avec vous, donc, on va partir à la découverte de cette femme qui, hier, a été, on va dire, honorée par toute l'Église universelle et déclarée sainte. Et ce n'est pas rien. Alors, tout commence évidemment toujours par une naissance. Donc, cet enfant qui naît le 18 juillet 1880. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire, elle naît dans la région de Dijon aussi ou pas?
Alors non, en fait, elle est née, son père était militaire, donc elle naît dans un camp militaire près de Bourges, et avant que sa famille déménage pour venir s'installer à Dijon un peu plus tard.
Alors qu'est-ce qu'on peut dire de sa famille vue de loin? On se dit, comme Sainte Thérèse de Lisieux, elle naît dans une famille chrétienne, pratiquante, bourgeoise, de la fin du 19e?
Exactement, une famille de militaires. Alors elle a juste une petite sœur, Marguerite, qu'elle appellera Guite, un peu plus jeune qu'elle, puisqu'elle a 3 ans de moins qu'elle. Alors c'est une famille, oui, tout à fait ordinaire au départ, qui va être marquée, hein, comme souvent à cette époque, par la mort prématurée de son papa. Élisabeth perd son père à l'âge de 7 ans, même il meurt dans ses bras, hein, enfin, d'une crise cardiaque, donc assez jeune. Et à ce moment-là, un peu le cercle familial se resserre autour de sa maman et de ses 2 filles, hein, qui déménagent à Dijon. Et là, Élisabeth, en fait, sa vie, elle va surtout être marquée par la musique. Sa maman était déjà musicienne, mais elle va investir toute l'énergie de ses filles dans le piano, hein, et Élisabeth va être vraiment une pianiste, hein, de grand niveau. Elle fera environ 4 heures de piano par jour, hein, au départ pour apprendre, et puis elle sera au conservatoire. Elle aura même un premier prix de conservatoire. Elle aura même le privilège de jouer devant Gabriel Fauré, hein, à l'occasion d'un concert à Dijon. Donc vraiment, c'est une famille, vous voyez, qui est tout à fait qui tourne autour de la musique, hein, du piano.
Alors peut-être vous parlez du décès donc de son père quelques temps avant, si je me trompe pas aussi, elle a perdu son grand-père.
Oui.
Qu'est-ce qu'on sait de ces deuils qui évidemment doivent certainement marquer une enfance? Est-ce qu'elle a écrit là-dessus?
Alors son père, en fait, elle a écrit bien plus tard un poème. Parce qu'elle a écrit des poésies, hein, à la fois avant d'entrer au Carmel et après, où elle exprime justement la grande souffrance que ça a représenté la mort de son père qui est parti dans ses bras. Hein, et c'est, il y a cette expérience, hein, très forte du deuil, hein, qui va marquer sa vie, même si elle ne revient pas beaucoup dessus. Mais indirectement, on le voit dans la nombreuse correspondance qu'elle a eue, où elle a vraiment une grâce pour rejoindre les personnes dans leur souffrance. Et on voit bien que dans ces mots, qui sont toujours pleins de délicatesse, pleins de profondeur, eh bien, il y a sa propre expérience, hein, du deuil. Elle a beaucoup écrit à des personnes qui venaient de perdre une mère, un père, même un enfant. On voit toujours qu'elle trouve des mots très très justes pour rejoindre l'autre, et ensuite, ça sera son message plus tard, de leur faire lever les yeux, hein, vers plus haut, vers l'espérance du ciel.
Alors il faut dire un mot de son tempérament, comme souvent on a l'impression que c'est une constante chez les saints. Cet enfant a un très fort tempérament. Alors je ne l'ai pas connu, hein, mais en me penchant un petit peu sur sa vie, j'ai lu des adjectifs comme très fort tempérament, colérique, très forte volonté, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire
Colérique, oui, colérique. Ça c'est très clair. Enfin, il y a des photos d'elle enfante qui sont assez extraordinaires. On voit un petit bout de chou là qui est sur un petit banc d'enfant avec des yeux de braise. Hein, elle avait un tempérament très très fort.
Bah, c'est vrai que c'est un peu. Elle n'est pas toujours en train de sourire sur les photos d'ailleurs.
Ah, non, elle est plutôt, on sent quelqu'un de très volontaire qui ne. Enfin, elle ne lâchait pas le morceau, hein, quand elle avait une idée en tête. Il y a même des épisodes tout à fait frappants. Elle avait une poupée qui s'appelait Jeannette et la maman l'avait donnée au curé pour la crèche pendant la messe de minuit. Donc la poupée se retrouvait dans la crèche, et puis voilà que ma petite Elisabeth aperçoit pendant la messe la poupée dans la crèche, et elle dit « Méchant curé, rends-moi ma Jeannette !» Donc vous voyez qu'il y a un enfant qui est plein de vie. Mais ce qui est très intéressant, c'est que justement, à partir de ce tempérament très fort, elle va aussi, eh bien, ensuite, travailler dessus. Hein. Et ça, c'est sa maman, qui était une maîtresse femme, hein, enfin, très spirituelle et aussi très aimante, mais aussi très exigeante, va un jour lui dire « Si tu veux faire ta première communion, eh bien, il faut que tu changes. » Et là, toute l'année qui va précéder, elle va commencer vraiment à travailler sur son tempérament, à se maîtriser, à se corriger, pour changer du tout au tout. Hein. Et vraiment, les témoins qui l'ont vu ont vraiment vu une enfant. Ben, elle a fait sa première communion assez tardivement, hein, à 11 ans, hein, comme on le faisait à l'époque. Mais vont voir vraiment, voyez, un enfant changer. Hein, eh bien, oui. Par désir, hein, de se préparer à recevoir, hein, l'Eucharistie.
C'est-à-dire, hein, avant la communion, parce que moi, avant la communion. J'avais lu aussi que c'était à la faveur de cette première communion qu'elle avait continué à faire...
Voilà, il y a tout un travail qui dure environ un an, hein, avant la communion, et si vous voulez, la communion va sceller, hein, cette transformation, et à partir de là commence vraiment un chemin de très fort de grande attention à la présence de Dieu à partir de cette expérience de la première communion.
Alors justement, il faut en dire un mot, parce qu'elle a, semble-t-il, des grâces très particulières à la faveur de cette première communion.
Il y a un témoignage, hein, d'une de ses camarades, hein, qui a fait la première communion en même temps qu'elle. Vous savez qu'à l'époque, on jeûnait, hein, depuis minuit, hein, pour communier. Donc, à la sortie de la messe, sa petite amie lui dit « Bon, maintenant, on va faire la fête, on va aller... » Parce qu'il y avait des grands repas familiaux, évidemment. Et Elisabeth lui répond avec un air très recueilli, très convaincu, « Je n'ai pas faim, Jésus m'a nourri. » Hein. À travers cette petite phrase, en fait, il y a quelque chose qui dit en fait, tout son amour et puis la plénitude, hein, de la rencontre qu'elle vit. Et là, il y a vraiment un basculement nouveau, hein, dans sa vie personnelle, spirituelle, qui va être accentué dans l'après-midi. Après cette première communion, elle va au Carmel. C'était un peu la tradition dans les bonnes familles catholiques de Dijon d'aller voir les carmélites l'après-midi, après la première communion, sachant qu'elles étaient voisines du Carmel. Et là, elle rencontre la mère prieure de l'époque qui lui demande son nom. Elle dit « Elisabeth ». Et la prieure répond, avec une étymologie qui est discutable, hein, au niveau des racines hébraïques, mais « Elisabeth », ça veut dire « maison de Dieu ». Et elle lui donne une image, même, pour lui indiquer cela. Et ça va vraiment prendre un grand écho dans la vie d'Elisabeth, cette perception, hein, à partir de l'Eucharistie, mais que plus profondément, elle est, comme baptisée, comme Elisabeth, maison de Dieu. Hein. Et c'est vraiment ça qui va un peu désormais faire le fond de son expérience spirituelle, de son rapport à Dieu Trinité, hein, précisément.
Alors, j'ai noté aussi qu'elle aurait, semble-t-il, aussi reçu, alors elle a reçu beaucoup de grâces sensibles, comme on dit, on verra après, hein, mais entre autres, un jour, après avoir communié, elle a affirmé, qu'elle a entendu dans son cœur, dans son âme, le mot Carmel.
Voilà. Alors, en fait, ce sont des événements qui arrivent, elle a 14 ans.
Alors, mettez-vous à la place aussi de ceux qui peut-être nous écoutent et qui n'ont pas la foi. Comment ça s'explique et comment...
Alors, il y a... Ça, c'est bien, il y a une part de mystère, hein, il faut reconnaître. Donc, à 14 ans, elle a deux grâces qui sont liées à la communion, encore. Hein, vous voyez, c'est toujours sa part de la communion. Hein. Premier épisode, après cette communion, si vous voulez, elle ressent, mais ressentir, c'est croire plutôt dans son cas. Hein. Elle croit de tout son être à cet amour de Dieu qui vient en elle. Et elle veut, hein, à la place de la volonté, répondre à cet amour. Et donc, à l'âge de 14 ans, elle fait vœu de virginité, hein, intérieure.
Hein, c'est-à-dire dans son cœur, elle dit...
Dans son cœur, elle dit, je ne serai qu'à Jésus. Hein, et on verra que dans la suite, ça va poser des problèmes à sa maman. Hein, donc, elle décide, hein, intérieurement d'être toute à celui qui vient de se donner à elle, hein, encore dans l'Eucharistie. Et donc, elle fait ce vœu intérieur de virginité. Elle a 14 ans. Et effectivement, quelques jours plus tard, à l'occasion d'une autre communion... Là, elle entend, hein, c'est ce qu'on appelle des paroles intérieures. Alors, c'est un mot qui est prononcé dans l'âme, hein, sans que ça soit entendu par les oreilles du corps. Elle entend le mot Carmel. Hein. Elle connaissait le Carmel. Mais là, elle l'entend vraiment venant de l'intérieur, hein, comme si Jésus l'appelait. Et donc, elle comprend, hein, ce jour-là que eh bien, sa vie sera le Carmel. Hein, elle désire être carmélite. Alors, elle ne va pas tout de suite s'en ouvrir aux autres. Hein, le premier confident sera un prêtre de la région, hein, Saint-Hilaire, près de Carcassonne, où elle viendra en vacances. Mais voilà, ce sont un peu les grâces fondatrices hein, qui vont l'accompagner jusqu'à dans les années qui suivent, qui seront des années pas toujours faciles pour elle, hein, avec notamment avec sa maman.
Alors justement, vous allez nous en dire un mot, que quand on lit sa vie, donc on lit que c'était une jeune fille, enfin cette famille qui peut-être s'était un petit peu repliée avait une vie quand même sociale importante, donc c'était une jeune fille très appréciée, pleine de talent, on l'a dit, musicienne talentueuse, voilà, qui avait beaucoup d'amis, et alors dit-on qu'il y avait même une vie mondaine.
Oui.
Alors c'est vrai que quand on voit ce à quoi peut ressembler la vie mondaine à la fin du 19e, en fait elle voyait des amis, elle jouait du piano, elle dansait un petit peu.
Sa vie mondaine, on le voit bien par les photos qui nous sont conservées. Hein,
on est quand même à des années-lumière de ce que peut être une vie mondaine aujourd'hui.
Certes, oui. Voilà. si vous voulez, c'est vraiment un monde d'abord de jeunes filles. Hein, quand on voit les photos, ce sont tout un tas de belles jeunes filles avec des chemisiers, des chapeaux à plumes, et qui font des soirées musicales. Hein, donc Elisabeth souvent est au piano, il y a aussi des balles, donc c'est aussi l'occasion hein, de rencontrer de jeunes hommes et voire de futurs époux pour toutes ces demoiselles. Et on voit bien qu'il y a quand même le désir de la maman d'Elisabeth et vraiment de sortir ses filles hein, de ce petit milieu clos dans lequel elles vivent. Donc d'abord, elles ont beaucoup d'amis hein, sur Dijon et puis la maman les fait beaucoup voyager. Hein. Quand on regarde une carte de France, elles ont été dans toutes les régions, notamment le Jura. Dans la région, elles ont beaucoup été autour de Carcassonne, hein, Carlipa, près de Castelnaudary. Elles ont été près de Lourdes, à Biarritz, à Marseille, en Suisse. Je crois que l'objectif de la maman était aussi un peu peut-être de faire s'envoler les velléités de vie religieuse qu'elle avait bien comprises hein, chez sa fille. Mais effectivement, Elisabeth est tout à fait à l'aise. Hein, c'est une meneuse. Hein. Quand elle est dans un groupe, c'est elle qui mène. Bon, déjà, elle mène parce qu'elle joue le piano et les autres dansent. Hein, et puis, elle a une capacité d'entrer en relation tout à fait exceptionnelle. On le voit dans ses lettres. Hein, elle a beaucoup d'amis. Et c'est quelqu'un qui est très apprécié hein, en même temps par sa profondeur, sa douceur et sa joie de vivre. Hein. Elle danse, elle joue de la musique. Enfin, c'est pas du tout une jeune fille coincée, hein, comme on dirait aujourd'hui.
Alors, donc c'est pas une jeune fille coincée, mais c'est une jeune fille qui a des grâces mystiques. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces grâces mystiques qui, semble-t-il, tournent autour de à la fin de l'adolescence, en tout cas à cette époque, c'est-à-dire aux environs de 18 ans, si j'ai bien compris. Qu'est-ce que c'est que ces grâces mystiques qu'elle a reçues
Ces grâces mystiques, je pourrais presque dire, ça pourrait sembler paradoxal, ce sont des grâces ordinaires. C'est un recueillement, hein, c'est-à-dire une présence à ce Dieu qui est présent en elle. Hein. Et tous les témoignages hein, des personnes qui la rencontrent disent qu'elle est habitée.
Hein. Déjà à l'époque.
Ah oui, ça c'est très fort. Notamment, il y a un témoignage assez bouleversant d'un jeune homme qui un jour danse avec elle. Et il est saisi, il a vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre avec eux. Quoi. Hein, et il y a aussi un beau témoignage qu'elle rend elle-même. Hein. Elle pose pour une photo. Et elle dit qu'elle était toute saisie par celui qui l'habitait, parce qu'elle voulait que ça passe dans la photo. Hein, vous voyez ça. En fait, la mystique d'Elisabeth, c'est une mystique, on pourra le revoir quand on parlera de sa spiritualité, c'est simplement une foi vive, profonde, dans cette présence de Dieu en elle. Hein, cette présence de Dieu en elle. Elle n'a pas de vision du Christ, hein, comme a eu Sainte Thérèse d'Avila. Elle n'a pas de phénomène extraordinaire visible. Hein, elle n'a pas à léviter, tout ce qui peut exister parfois hein, dans la tradition mystique. Elle, c'est tout intérieur, c'est tout calme, tout silencieux, mais c'est tout en profondeur, tout en le mot qui dit bien les choses, je crois, c'est présence.
Hein. Donc elle a quoi ? Elle a la certitude de la présence de Dieu dans son cœur, son âme, c'est ça ?
C'est presque plus qu'une certitude, c'est une expérience. Hein. C'est une expérience, vous voyez, c'est une foi vécue. Hein. Elle est captivée, saisie par cette présence hein, de Dieu dans son âme, dans son cœur. Hein.
Alors, sa maman, qui peut résister à Dieu ? Sa maman finit par céder, d'une certaine manière.
Alors, la maman négocie, Carmel, non ? Elle négocie dans un premier temps. Elle lui dit, pas avant 21 ans, hein, parce que c'est l'âge de la majorité hein, à l'époque, dans l'espérance que d'ici là, elle changera d'idée. Mais Elisabeth maintient le cap. Et vous voyez, elle est née le 18 juillet hein, et elle entre le 2 août. 1901, donc quelques jours après ses 21 ans.
Alors qu'est-ce qu'on peut dire de sa vie au Carmel? Parce qu'en fait, donc, elle décède en 1906, donc, si je ne me trompe pas. Donc
ça fait 5 ans au Carmel.
Ça fait 5 ans de vie religieuse, ce n'est pas énorme. J'ai lu que, enfin, en tout cas au début, semble-t-il, elle y a été très heureuse. Mais semble-t-il, avant le début, il y a eu une période très compliquée avant.
Si on fait très bref, elle entre vraiment avec une facilité, une profondeur. Elle émerveille toutes ses sœurs qui disent, elle appelle déjà la petite sainte. On se méfie un peu dans les Carmels parce qu'on se dit, on va voir. Dans son cas, vraiment, les premiers mois se passent vraiment dans une grande joie. Elle retrouve même la santé parce que la fin de sa vie dans le monde, le conflit avec sa maman l'a beaucoup affectée. Là, elle trouve la paix. Elle est là où elle doit être. Et puis, il y a le noviciat. Donc, c'est cette période d'une année qui précède l'engagement. Et là, en revanche, le noviciat est marqué par une nuit de la foi, vraiment une épreuve. Vous voyez, toute cette expérience de la présence de Dieu lui est comme un peu mis en sourdine, dans le brouillard. Et là, elle vit quand même un moment plus difficile, juste qui prend vraiment, qui devient même très très aigu, juste avant la profession, où elle a un moment de désarroi. La veille, elle a vraiment l'impression qu'elle ne peut pas faire profession, tellement Dieu lui semble lointain et elle se sent coupée de lui. Et là, il y a un prêtre qui vient la rassurer et elle fait sa profession. Les années qui suivent sont des années de déploiement de sa vie au Carmel, toute simple. Il n'y a rien de bien extraordinaire, de bien visible. Elle vit dans une communauté très équilibrée, très unie, très vivante. Et puis arrive la maladie. La maladie.
Donc elle a une maladie dite rare.
Maladie d'Addison, oui. Qui va être en fait. Qui va lui donner de souffrir extrêmement, parce qu'elle meurt quasiment de faim et de soif. À la fin, elle ne peut plus s'alimenter. Donc, dans un premier temps, les premiers symptômes d'affaiblissement. Donc, petit à petit, on lui retire les différentes charges qu'il y a dans le monastère, de travail manuel, d'assistance aux offices. Et puis, dans les derniers mois de sa vie, elle termine à l'infirmerie, où là, elle, vraiment, au sens propre, elle dépérit, parce qu'elle ne peut plus se nourrir. Elle peut juste sucer des bonbons, du chocolat. Même la boisson est extrêmement douloureuse pour elle. Et là, il va y avoir une espèce d'envolée, de transfiguration, dans cette immense souffrance qu'elle vit, parce que mourir de faim et de soif à petit feu, c'est évidemment quelque chose de terrible. Et là, il y a une espèce de, si vous voulez, de déploiement de son rayonnement par ses lettres, par ses écrits, par les sœurs qui viennent la voir. Et elle meurt vraiment en disant je vais à la vie, à la lumière, à l'amour, dans une grande paix, avec quelque chose qui est étonnant vraiment pour ses contemporains.
N'entends-tu pas déjà le grand silence? L'hymne d'amour qui se chante là-haut. Sœur, oublions l'exil et la souffrance, et que nos cœurs saluent ce jour si beau. Ne vois-tu pas la splendeur éternelle, la Trinité qui se penche sur nous. Le ciel s'entr'ouvre, écoute, on nous appelle. Recueillons-nous, ma sœur, voici l'époux. Vois-tu pas la nuée lumineuse qui jusqu'à nous projette sa clarté? Restons là toutes silencieuses, fixant l'immuable beauté de notre Christ. Le regard clarifie en imprimant la pureté de Dieu. Sœurs, demeurons pour qu'il nous déifie, l'âme en son âme et les yeux dans ses yeux. Il vient lui-même au devant de ses vierges pour leur donner l'ineffable baiser. Il plane ici, son ombre nous protège. Regardons-le pour nous virginiser. Il est si beau le Christ, splendeur du Père, illuminé par la divinité. Il est lui-même un foyer de lumière, enveloppant les siens en sa clarté. aimons ma sœur et que tout disparaisse.
Présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Ce matin, donc, une émission à la découverte d'Élisabeth de la Trinité, Sainte Élisabeth de la Trinité depuis hier, puisque donc le pape François a hier présidé donc une célébration au cours de laquelle place Saint-Pierre de Rome ont été canonisées 7 personnes, 2 martyrs, 4 prêtres et une religieuse, dont 2 français, donc un prêtre martyr pendant la Révolution française, Salomon Leclerc, et donc Élisabeth de la Trinité, morte en 1906 à l'âge de 26 ans. Voilà une espèce d'autre Sainte Thérèse de l'enfant Jésus, même si elles sont, semble-t-il, assez différentes, peut-être pas de tempérament, mais en tout cas, bon, elles sont différentes. Voilà, c'est les subtilités de l'arc-en-ciel
de la sainteté.
De la sainteté, exactement. Donc, vous nous avez décrit, je rappelle que nous sommes avec le frère Philippe Raguis, vous êtes carme du couvent des Carmes de Toulouse. Voilà, vous avez quand même un frère qui est allé à la canonisation.
Oui.
Hein, voilà, bravo. Et on sait que, voilà, on sait que ça n'est pas fini, puisque bientôt, on peut le dire, hein, il y a une autre canonisation.
Une béatification par Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, là, en Avignon, le 19 novembre.
On y reviendra plus tard. Donc, vous nous avez décrit à gros traits sa vie, et alors maintenant sa spiritualité. Donc, peut-être en introduction, faut-il dire, elle a écrit, beaucoup écrit, mais elle écrivait à qui? Elle écrivait à ses amis? C'est sa supérieure qui l'autorisait à écrire?
Alors, il y a plusieurs... Le plus gros bloc de ces écrits, ce sont des lettres. Hein, plus de 330 lettres, alors qu'on a conservées. Donc il y a évidemment d'abord des lettres écrites avant son entrée dans la vie religieuse, quand elle était jeune fille. Ensuite, il y a un grand nombre de lettres écrites depuis le Carmel. Alors écrites fondamentalement à des laïcs, ses amis, les amis de sa maman, qu'elle vient justement consoler à l'occasion d'un deuil, à l'occasion d'une épreuve. Et puis, donc ça c'est le bloc des lettres, c'est le plus intéressant, à mon avis, dans ses écrits, même si ce ne sont pas les textes de fait les plus connus. Après, il y a tout un ensemble de poésies, dont on vient entendre une de ces poésies là, chantée par notre frère Pierre Eliane.
Oui, alors d'ailleurs, j'ai oublié, expliquez-nous peut-être...
Voilà, donc elle a écrit des poésies, là aussi, avant son entrée au Carmel, elle commence d'ailleurs très jeune, bon, les premiers vers ne sont pas tout à fait convaincants, et elle écrit encore de nombreuses poésies au Carmel. Alors souvent, quand elle écrit au Carmel, ce sont un peu des cadeaux qu'elle fait à ses sœurs. Donc là, le poème qu'on vient d'entendre, qui s'appelle « Le grand silence », elle l'adresse à une de ses sœurs, qui s'appelle sœur Agnès, un peu pour s'encourager mutuellement. Elle lui écrit cette poésie pour l'inviter à cette entrée dans le silence avec le bien-aimé. Donc les lettres, les poésies, il y a aussi une série de notes intimes et un journal. Alors là, elle écrit pour elle-même. Elle écrit un peu ce qu'elle veut garder de son expérience de Dieu. C'est notamment dans ces notes intimes qu'on trouve la fameuse prière à la Trinité, sur laquelle on devra revenir. Et puis, ce qui a fait qu'elle a été le plus connue au départ, dans la suite après sa mort, ce sont les 4 traités spirituels, qui en fait sont des lettres, mais un peu amples, qu'elle écrit l'une à sa sœur, l'autre à sa mère prieure, une autre à une amie, puis une autre qui est un peu un résumé de sa retraite, où là, elle développe longuement un peu son idéal spirituel.
Alors, si on plonge dans sa spiritualité, puisque maintenant qu'elle a été canonisée, on peut dire qu'il y a une spiritualité, peut-être Élisabeth de la Trinité.
Très clairement.
La première chose, c'est l'importance du silence. Alors, évidemment, quand on connaît un tout petit peu la vie carmélitaine, on se dit que c'est normal, parce que la vie de silence fait partie de la vie religieuse, peut-être particulièrement de cette vie-là. Pourquoi elle passait son temps comme ça à souligner
chez elle, y a tous les témoins sont unanimes dans la perception que son silence est tout à fait particulier. C'est un silence, c'est un thème que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, vraiment habité. Je crois qu'avant de parler du silence d'Élisabeth, il faut se remettre devant un peu le soleil de sa vie, qui est là. Elle dit, il y a un mot qui résume toute ma vie, c'est ce petit mot de Saint Paul, à cause de son trop grand amour. Propter nimiam caritatem, elle prend le mot latin dans les épîtres de Saint Paul telles qu'elle pouvait les avoir de son temps. Et elle est fascinée, un mot qui revient souvent sous sa plume, fascinée par cet amour de Dieu, pour elle, pour le monde, pour chacun. Et son silence, si vous voulez, c'est un peu le silence de... elle est saisie hein, face à cet amour, et c'est un silence qui est rempli, voilà, c'est un silence d'écoute. Hein, je pense qu'aussi, elle est musicienne, hein, donc elle écoute cet amour de Dieu dans sa parole, dans simplement cette présence aussi. Hein, et vraiment, le silence est comme le leitmotiv de toute sa vie spirituelle. Hein, elle est vraiment habitée. Hein, c'est un silence qui n'est pas un silence de vide, si vous voulez. C'est un silence qui est plutôt un silence d'écoute, de réceptivité, pour se laisser remplir hein, par cet amour de Dieu. Elle est comme un vase qui s'offre hein, à l'amour de Dieu, et donc elle essaye de rester dans ce silence pour l'écouter.
Elle parle même de l'ascèse du silence.
Ben oui, parce que c'est vraiment pour elle un peu l'exercice fondamental. Hein. Dieu se donne. Hein. Vous savez, le cardinal Sarah vient d'écrire un livre hein, dont le titre est tout à fait intéressant, « La force du silence contre la dictature du bruit ». Alors c'est, si je puis dire, c'est élisabétain. c'est vraiment l'approche d'Élisabeth, c'est-à-dire de faire silence pour laisser Dieu eh bien, se manifester en nous. Hein. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait d'expérience mystique, entre guillemets. Je crois qu'elle fait vraiment dans le silence, hein, elle entend, elle capte, elle saisit hein, la présence de Dieu. C'est le sens du silence chez elle.
Alors l'autre grand trait de sa spiritualité, donc, c'est ce qu'on appelle l'habitation de la Trinité. Alors pour ceux qui viendraient de tomber sur Vivante Église et sur Radio Présence, ne nous perdez pas trop de monde en cours de route. Chers frères, habitation de la Trinité, qu'est-ce à dire? Alors, il paraît que je dis tout le temps qu'est-ce à dire, donc qu'est-ce que cela veut dire?
Dans le cas d'Élisabeth, je crois que
on a compris que c'était quand même quelqu'un qui, même, vous dites, même ses sœurs, on va dire même des carmélitaines, quand elles rentrent au couvent, on sent qu'il y a chez cette femme une présence
tout à fait particulière,
mystérieuse. Oui. Donc évidemment, ça n'est que le prolongement de ce que vous venez de ce qu'on vient de dire. Mais qu'est-ce que ça veut dire l'habitation de la Trinité?
Alors, en fait, Élisabeth, si vous voulez, elle vit tout simplement du baptême, la foi du baptême. Hein. Et un mot qui revient aussi souvent chez elle, c'est simplicité. Elle vit les choses simplement, elle déploie la logique du baptême. Et le baptême, eh bien, nous sommes baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Hein. Et donc, la Trinité, nous sommes plongés dans la Trinité, et la Trinité devient à la fois notre demeure et vient demeurer en nous. Hein. Parce que là, on n'est pas dans des réalités matérielles. Hein. Ce n'est pas des corps, hein. c'est une réalité spirituelle. Et donc, il y a une habitation mutuelle entre le baptisé et la Trinité, ça devient notre lieu de vie. Hein. Et donc Élisabeth, si vous voulez, elle est captivée par cette perception hein, de ce mystère de Dieu qui habite en elle. Il y a un très beau témoignage, hein. Elle avait une amie qui voulait entrer au Carmel aussi, qui n'est pas entrée finalement, et elle se voyait. Hein. Dans les dernières années, elles allaient à la messe au Carmel, et puis elles discutaient un peu entre elles pour s'entraîner. Et à un moment, Élisabeth lui dit, je crois que je ne voudrais plus parler, hein. je sens qu'ils sont là en moi. Et d'un geste, elle porte les mains sur son cœur, hein. elle dira, je les sens présents en moi. Hein. Faut faire attention aux mots, hein, se sentir, hein, c'est pas forcément un chatouillement dans le cœur, une chaleur, hein, c'est la foi, de croire que Dieu habite en moi. Et le Dieu auquel nous croyons, nous chrétiens, hein, est un Dieu de relation, un Dieu d'amour, un Dieu de communion, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Hein. Et là, vous voyez, on rejoint, on parlait tout à l'heure un peu brièvement des amitiés d'Élisabeth. Hein. C'est quelqu'un qui a le sens de la relation. Et ce qui est fantastique, c'est qu'elle va comprendre aussi cette relation avec Dieu et cette présence de la relation en Dieu. Hein. C'est comprendre que Dieu est amour, Dieu est communion, et que nous sommes engagés dans cette communion et dans cette relation.
Alors, dans son homélie de béatification, Jean-Paul II, donc le 25 novembre 1984, tenait ses propos et disait donc Élisabeth de la Trinité fait une expérience profonde de la présence de Dieu qu'elle mûrit de manière impressionnante en quelques années de vie au Carmel. Elle reçoit admirablement la présence de Jésus Eucharistie à un degré exceptionnel. Enfin, il y a des paroles qui sont vraiment étonnantes, et puis qui va introduire l'autre grand volet qu'on voulait aborder à propos de sa vie spirituelle. Il parle d'une ouverture parfaite à la parole de Dieu qu'elle a su assimiler au point d'en nourrir véritablement sa réflexion et sa prière, au point d'y trouver toutes ses raisons de vivre, de se consacrer à la louange de sa gloire. Ouverture parfaite à la parole de Dieu, on se dit c'est... Oui. Ben, il y va fort, Jean-Paul II.
Oui, mais bon, il aimait beaucoup Élisabeth, hein, parce que c'est un disciple d'Élisabeth, Jean-Paul II.
D'accord.
Mais justement, je crois que là, peut-être, on rejoint la sensibilité de la musicienne. Vous voyez, toutes ces heures et ces heures et ces heures passées au piano, hein, c'est ce sens de la mélodie, des harmonies, je crois, ont développé chez elle une aptitude tout à fait unique à l'écoute. À l'écoute et à la perception. Et donc, quand elle est face à la parole de Dieu, hein, avec sa foi éveillée, eh bien, elle a une capacité, si vous voulez, à laisser résonner cette parole et à s'en laisser impressionner, transformer. Et ce qui est extraordinaire, enfin, c'est pour ça qu'elle est pas si loin de nous que ça, parce qu'elle se contente de lire la parole de Dieu, mais de lui donner toute la place. Hein. Et ça revient, on revient au silence. Elle donne toute la place et c'est comme ça qu'elle va trouver dans la parole de Dieu un peu son nom nouveau. Vous savez, dans l'Apocalypse, hein, Saint Jean parle du nom nouveau, hein, qui va être donné aux élus. Alors Élisabeth, elle a trouvé ce nom nouveau. Hein, elle a trouvé ce nom nouveau, louange de gloire. Hein. Louange de gloire, la première apparition du thème, c'est en janvier 1904.
Mais elle l'a trouvé au point de son vivant, elle disait elle-même qu'elle pensait que c'est comme ça qu'elle serait.
Ah oui, pour elle,
elle serait appelée au ciel.
Elle a vraiment trouvé son nom nouveau.
Hein. Enfin, alors dites-en un tout petit peu plus, c'est-à-dire que chacun, on a un autre nom, quelque part, qui est la manière dont Dieu nous nommera quand on le verra face à face.
Chacun en est voulu de toute éternité par Dieu. Hein, on est tous issus de l'amour de Dieu, du cœur de Dieu. Hein, et bah, on a un petit nom qui est le nom que l'amour de Dieu prononce sur nous. Alors nos parents nous ont donné un prénom qui est pour nous donner un saint patron. Mais dans ce nom nouveau, enfin c'est un nom éternel en fait, hein, plutôt, c'est un nom éternel, c'est la volonté de Dieu, le dessein de Dieu sur chacun de nous. Hein, c'est le mystère que nous sommes, hein, c'est ce qui donne, si vous voulez, pour nous chrétiens, la dignité à toute personne humaine, c'est qu'il y a ce regard éternel, hein, de toute éternité, je t'ai aimé, hein, et je t'appelle louange de gloire. Hein. Alors, Élisabeth a la perception que c'est son nom nouveau, hein, et même elle va... Quelques années d'après, elle va même prendre le nom latin, hein, qui est tel qu'il est dans, elle le trouve dans les épîtres de saint Paul. Ce sera Laudem Gloriae, hein, louange de gloire. Et donc, en lisant, hein, l'hymne aux Éphésiens, voilà, elle découvre sa vocation. Hein. Vous savez, c'était aussi une thématique qu'elle a, je crois, trouvée chez Thérèse de l'Enfant Jésus. Vous savez, Thérèse de l'Enfant Jésus qui, dans le manuscrit B, cherche sa vocation. Hein, dans le cœur de l'Église, ma vocation, je l'ai trouvée, c'est l'amour. Hein. Élisabeth, elle cherche aussi sa vocation. Hein, elle cherche un peu pourquoi Dieu l'a créée, pourquoi Dieu l'a voulu, elle. Hein, et elle trouve que sa vocation, eh bien, est d'être louange de gloire. Hein, c'est-à-dire, eh bien, de contempler, d'adorer, de chanter, hein, la merveille de Dieu, la profondeur de l'amour de Dieu. Hein, c'est ce thème du trop grand amour. Face à ce trop grand amour, la réponse de l'homme, la réponse en tout cas d'Élisabeth, c'est le thème de la louange de gloire.
Hein. Alors, je rassure nos auditeurs, s'ils se sentent tout petits devant une telle expérience de Dieu, on verra avec le frère Philippe Raguis dans la dernière partie de cette émission comment essayer de suivre le chemin d'Élisabeth, se disant que si l'Église aussi la canonise, c'est pas pour dire regardez comme elle est extraordinaire, et oui. vous ne pourrez jamais atteindre de tels sommets. Vous dites donc qu'elle a énormément. Elle a laissé résonner de manière particulière la parole de Dieu, enfin vous le dites, et Saint Jean-Paul II le dit, et particulièrement Saint Paul.
Saint Paul, oui, c'est vraiment son...
Dites-nous un mot de ça avant qu'on...
Alors, elle s'est vraiment nourrie en boucle, si je puis dire, des lettres de Saint Paul. Alors, il y avait derrière ça, elle a beaucoup écouté, hein, aussi les homélies, les retraites prêchées. Il y avait notamment un père dominicain, le père Vallée, hein, qui a eu une grande influence sur elle, et qui l'a éveillé, hein, je crois, cette vision très large, hein, du dessein d'amour de Dieu, hein, que saint Paul a contemplé, que saint Paul a chanté. Et donc, elle relit sans cesse les épîtres, et donc on trouve, hein, c'est intéressant, quand elle écrit, vous voyez, les bras aux dames, aux grandes dames de la société dijonnaise, hein, elle leur fait des colliers de citations, hein, comme dit saint Paul. Elle aime bien saint Jean aussi, mais surtout saint Paul. Elle va citer régulièrement saint Paul pour... c'est intéressant parce qu'on se dit que la parole de Dieu, parfois dans l'Église, elle n'était pas connue, pas vécue. Là, on a l'exemple, hein, d'une petite religieuse, hein, de la fin du 19e, début 20e siècle, qui a fondé toute sa vie spirituelle sur la parole de Dieu, hein, sur la méditation de la parole de Dieu. Et là, elle rejoint finalement la grande tradition du Carmel.
Dans un profond silence, une ineffable paix, une oraison divine qui ne cessait jamais. L'âme tout envahie des clartés éternelles se tenait nuit et jour, Marie Vierge fidèle. Son cœur comme un cristal reflétait le divin. L'hôte qui l'habitait, la beauté sans déclin. Elle attire le ciel, et voici que le Père va lui livrer son verbe pour en être la mère. Alors l'esprit d'amour de son ombre la couvre. Les trois viennent à elle, c'est tout le ciel qui s'ouvre, qui se penche et s'incline, adorant le mystère de ce Dieu qui s'incarne en cette Vierge Mère. Carmel est une autre Marie, grande communiante, âme tout envahie. Dans un recueillement profond, mystérieux, et la nuit et le jour se livrant à son Dieu. Je vois briller sur elle un rayon de lumière, étincelant reflet de la face du Père. Et comme à Nazareth, sous les mêmes clartés, vers la Vierge s'incline toute la Trinité. Gracia plena, laisse-moi comme l'ange te redire en ce jour la sublime louange. N'es-tu pas envahie, mère, par l'infini? Garde-moi dans ton âme, je suis ton tout petit. Il y a dans mon cœur tant de reconnaissance. Je l'ai dit au bon Dieu dans un profond silence, lui demandant pour toi la grande invasion, la descente des trois, la consommation.
Présence à Sévrac-le-Château 102.3.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Voilà cette émission donc ce matin à la découverte d'Élisabeth de la Trinité, donc déclarée sainte par le pape François hier, place Saint-Pierre de Rome, avec six autres personnes, dont un autre français, Élisabeth de la Trinité, donc on va dire encore une surdouée de l'amour, morte à 26 ans en 1906. Je recite, puisque je confesse que je n'ai pas trouvé le texte de la canonisation d'hier, Jean-Paul II, qui lors de sa béatification disait « Nous l'invoquons disciple de Thérèse de Jésus », donc Thérèse de l'Enfant Jésus, enfin bien connue, en tout cas beaucoup plus connue, et de Jean de la Croix, qu'elle inspire et soutienne toute la famille du Carmel. Alors on sait que la famille du Carmel, vous êtes entre guillemets un peu abonné aux saints, hein. Il y a beaucoup de saints qui sont du Carmel. On a bien entendu qu'il y avait une spiritualité un peu particulière, évidemment, chez elle. Avec vous, je voulais, dans cette dernière partie, peut-être se mettre à la place de tout à chacun et de voir comment on peut on peut commencer ce chemin pour que pas avoir l'impression que c'est tout à fait hors de portée. Alors la première chose, c'est ce qu'elle dit du silence. C'est vrai qu'à la lecture même rapide de sa vie, on se dit facile pour elle, elle était au Carmel, mais quand on est mère de famille à courir dans tous les sens, père de famille, avoir des problèmes de boulot ou même plus jeune, je sais pas, adolescent, etc. Enfin, on peut pas passer sa vie en silence et on peut pas. Rares sont les amis qui acceptent quand on se promène avec eux, comme vous l'avez décrit, tout d'un coup dire excuse-moi, est-ce qu'on peut être en silence parce que là, je sens la Trinité en moi. Vous voyez ce que je veux dire. Alors, est-ce qu'elle a pas beau jeu de parler du silence comme ça et sinon, comment la suivre déjà sur ce chemin du silence?
Alors, moi, je partirais de l'événement d'hier, hein, si le pape François, si l'Église la canonise, hein, c'est vraiment pour la donner comme modèle, comme exemple, comme compagne, hein, aussi comme intercesseur, voilà, pour chacun. Je crois qu'elle a répondu à votre question, qui est la question, en fait, capitale, hein, dans notre vie à chacun. D'abord, je dirais que le silence, c'est pas une question de décibels. Hein, c'est pas une question d'être au fin fond de la campagne avec juste le bruit des petits oiseaux, loin des moteurs et de l'agitation. Et on le voit déjà du temps d'Élisabeth, hein, elle écrit à tout un tas de gens qui vivent. Alors certes, c'est pas tout à fait la vie trépidante d'aujourd'hui, mais elle écrit notamment souvent à sa sœur, hein, sa jeune sœur Marguerite, qu'elle appelle Gitte, qui, à la fin des dernières années d'Élisabeth, avait déjà deux petites filles. Hein. Et elle éduque sa sœur à la prière, au silence, au sein même de sa vie familiale. Hein, c'est très intéressant de voir qu'elle a vraiment ce souci, si vous voulez, d'appliquer toutes ces découvertes qu'elle fait dans la vie contemplative à la vie d'une mère de famille. Et elle dit notamment, hein, elle fait des relations entre son intimité avec Jésus et puis la manière dont sa sœur, eh bien, en portant ses petites filles dans les bras, va vivre quelque chose d'une communion. Et elle dira à sa sœur, voilà, ben, c'est comme ça moi que je vois la mort, c'est s'endormir dans les bras du Père. Elle fait tout le temps des relations, si vous voulez, entre la vie concrète de ses correspondants, hein, et l'expérience spirituelle, pour dire que, hein, que l'expérience spirituelle n'est pas du tout déconnectée, hein, de la vie de tous les jours, la vie normale, on pourrait dire. Hein. Et d'ailleurs, elle-même a des... Enfin, je crois qu'elle est presque... Elle est déjà sainte avant d'entrer au Carmel. Hein, on peut... J'espère que mes sœurs carmélites ne me gronderont pas si je dis ça. Hein, elle vit déjà, hein, ce silence, cette expérience de Dieu dans la prière, au sein d'une vie, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui est une vie relativement mondaine, hein, avec beaucoup de rencontres, beaucoup de fêtes, beaucoup de voyages. Mais ce silence dont nous parle Élisabeth, si vous voulez, c'est une attitude d'âme, c'est un rapport au réel. Hein, c'est aussi...
Donc c'est quoi? C'est apprendre à vivre en ayant en soi comme un espace ou une part de silence?
Voilà, ben je crois que le mot espace est très bien vu. Hein, c'est avoir cet espace en nous qui accueille, mais qui n'accueille pas que Dieu, qui accueille aussi le prochain. Hein. Élisabeth, souvent, quand elle écrit, hein, elle dit « je te donne un rendez-vous ». Et elle dit, voilà, je t'invite en moi et je suis en toi. Elle a, vous voyez, elle a cette idée que nous avons en chacun, dans notre cœur, tous un espace pour accueillir l'autre. L'autre, Dieu Trinité, mais l'autre aussi, mon amie Germaine, mon amie Cécile.
Mais enfin, c'est une ascèse aussi, parce que on est aussi dans un monde quelque part où une personne en dehors du cadre d'une vie religieuse ou d'un environnement chrétien, enfin, nombre de personnes peuvent avoir du mal à comprendre qu'une personne ait comme une attitude aussi intérieure de silence. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est que parfois, c'est la course à l'extraversion, l'activité, et une personne qui est comme ça, voire même dans le cadre de l'entreprise, peut être regardée un peu de travers en disant...
Ben je crois qu'il y a quelque chose, c'est vrai, de prophétique, mais je pense que la réalité qui est dessous, hein, on le voit bien dans pas mal de textes d'Élisabeth, c'est aussi l'oubli de soi. C'est laisser la place. Hein, c'est un peu vous voyez, parce que dans ce que vous décrivez, hein, c'est un peu la tentation que nous avons tous, hein, reconnaissons-le, à nous imposer. Hein, d'abord à nous imposer à nous-mêmes, hein, par tout un tas de retours sur, vous voyez, de dialogues intérieurs interminables, hein, sur nos rancœurs, nos regrets, ou alors nos projets. Hein. Élisabeth, elle nous invite à, comme elle dit dans sa prière, à aidez-moi à m'oublier. Hein. C'est-à-dire à avoir un moment, faire silence d'abord, je veux dire, sur soi et de soi. Un peu se taire. Hein. Se taire pour... et je crois que, à la fois, peut-être si je fais ça dans le monde, peut-être que... Je crois pas que je serais considéré comme un zombie, parce que, moi, je le vois comme prêtre, en tout cas, dans mon quotidien. les gens d'aujourd'hui crèvent de ne pas être écoutés, de ne pas être accueillis. Hein, et vous savez, c'est un peu comme on voit dans l'art contemporain ou le cinéma parfois, c'est une espèce de chacun crie dans son coin et n'est pas entendu. Et je pense que s'il y a des personnes qui ont cette qualité de présence, d'écoute, je pense que des choses peuvent bouger. Hein, et souvent, on voit des personnes justement qui bougent, qui changent parce que quelqu'un les a écoutés, quelqu'un les a rencontrés. Hein, et je crois qu'il n'y a pas que le psychanalyste pour ça. Hein, il y a vraiment, je crois que le chrétien dans la société d'aujourd'hui peut être un témoin de cet accueil profond de l'autre, voyez, parce que c'est le mystère de Dieu. Hein, les trois personnes qui s'accueillent mutuellement, qui se donnent mutuellement, et nous sommes appelés à refléter cela dans le couple, dans nos relations amicales, dans nos relations sociales. Hein, je crois qu'il y a vraiment, c'est quelque chose de très, très profond et très actuel en fait.
Alors l'autre chose, c'est qu'elle a, semble-t-il, quand même reçu des grâces particulières, puisque vivre avec une telle présence, une telle conscience ou une telle foi en la présence de Dieu en elle-même, vous dites que c'était presque une présence palpable pour elle. Est-ce que c'est le régime normal du chrétien, et est-ce qu'à force d'essayer de vivre au quotidien avec cette espèce d'espace de silence intérieur, enfin, en s'astreignant à cette ascèse, à cette recherche, il peut être donné à tout à chacun, ou entre guillemets, Dieu promet un moment de lui donner, de faire l'expérience de cette présence.
En un mot, je vous répondrai, je l'espère. Je l'espère. Je crois que c'est vraiment l'objet de notre espérance. Hein. En tout cas, c'est clair. Hein, c'est clair, je crois, par la révélation chrétienne, que Dieu veut se donner, hein, même que Dieu se donne. Hein. Ce qu'il attend de nous, c'est l'accueil, c'est la réponse, hein, c'est le consentement. Hein, c'est, si vous voulez, la meilleure icône, la meilleure image de cela, c'est la Vierge Marie, hein, qui est celle qui a beaucoup inspiré Élisabeth. Hein, on n'en a pas parlé jusqu'à maintenant, mais Élisabeth essaye de reproduire cette attitude de la Vierge, hein, de Nazareth, qui écoute, qui accueille la parole, et cette parole prend chair en elle. C'est le programme de vie du chrétien. Hein, c'est le programme de vie du chrétien. Alors, peut-être qu'à cause des circonstances, peut-être aussi à cause de Dieu fait ce qu'il veut, hein, dans nos vies, qu'on n'aura pas l'intensité, vous voyez, d'Élisabeth. Enfin, vous avez employé le mot conscience. Hein, peut-être qu'on n'aura pas tout à fait la même profondeur de conscience, mais la réalité est la même. Hein. Élisabeth n'est pas une super baptisée. Hein, Élisabeth est une baptisée qui prend son baptême totalement au sérieux et qui le laisse déployer toute sa richesse de vie. Hein. C'est une vie. Alors c'est vrai, on revient encore au silence, peut-être on revient à la thématique de l'oraison. Hein. Peut-être qu'il faut que dans nos journées quand même, il y ait des bulles de silence, hein, ou des moments où nous accueillons cette présence. Moi, j'aime bien prendre l'image, bon, ça colle bien ici, prendre l'image de la radio. Hein, il faut prendre du temps pour régler la bonne fréquence. Alors bon, ici ça sera radioprésence, mais vous voyez, radioprésence, la présence de la Trinité, la présence de Dieu. Il faut peut-être que le matin, dans ma journée, j'oriente mon attention vers cette présence qui va se manifester dans ma journée. Hein. Et là, c'est vrai qu'il y a une part d'ascèse, de préparation.
Donc vous promettez qu'en ayant cette ascèse, à un moment, même si on l'entendra pas avec la même intensité, on finira par capter Radio Présence Dieu.
Ça me semble évident, oui.
C'est une promesse que fait que fait Dieu.
C'est une promesse que fait Jésus dans l'Évangile. Hein, si quelqu'un vient à moi, enfin, hein, c'est le sens, hein, de notre suite du Christ. Hein, et vous voyez, une religieuse, une sainte comme Élisabeth, nous est simplement donnée comme, c'est l'appartement témoin. Hein, c'est vraiment de dire, voilà, l'habitation de la Trinité, elle est pour tous. Hein, c'est pas une logique différente.
Alors, l'habitation de la Trinité, donc on parle de la présence. Quand on dit habitation de la Trinité, peut-être pour ceux qui ont déjà une vie de prière et qui entendraient cette émission, la présence de Dieu et en même temps la conscience en soi de l'habitation de la Trinité, là c'est pareil, il y a quand même un saut... Qui est immense. Est-ce que tout simplement c'est à force de se tenir en silence régulièrement, d'avoir cette attitude intérieure qu'on vient de décrire, au fil des années un peu peut être donné ce que Sainte Thérèse d'Avila appelle cette cellule intérieure, c'est-à-dire tout d'un coup découvrir cet espace en soi.
Oui. C'est vrai que
c'est la suite naturelle.
Voilà, il faut aussi dire qu'il y a effectivement aussi une part de l'initiative de Dieu qui peut répondre à cette attente qu'il trouve en nous, en se manifestant hein, d'une manière plus particulière. Je crois qu'en attendant, il y a un bon moyen qui nous est donné justement par Élisabeth hein, et par l'Église en la canonisant, c'est peut-être de reprendre, hein, elle se trouve partout, hein, je pense qu'on la trouve facilement sur Internet, hein, de reprendre sa fameuse élévation à la Trinité. Vous savez qu'il commence avec ces mots, hein, je vous lis le début. « Ô mon Dieu, Trinité que j'adore, aidez-moi à m'oublier entièrement pour m'établir en vous immobile et paisible comme si déjà mon âme était dans l'éternité. » Que rien ne puisse troubler ma paix, ni me faire sortir de vous, ô mon immuable, mais que chaque minute m'emporte plus loin dans la profondeur de votre mystère. Et ça continue ensuite, elle va parler ensuite à chaque personne. Moi j'ai un ami prêtre hein, qui fait oraison tous les jours avec cette prière depuis des années et des années. Son oraison c'est de se redire cette prière. Mais je crois que ça peut être un moyen pédagogique tout simple de réveiller notre foi, simplement en reprenant les mots d'une sainte, hein, qui sont aussi, cette prière, il semblerait qu'elle l'ait écrite hein, d'un jet, hein, le 21 novembre 1904, à l'issue d'une retraite. Hein, le papier, en tout cas, qu'on a gardé, il n'y a pas de rature. Hein, c'est vraiment, vous voyez, une espèce de débordement de sa contemplation. Elle nous l'a laissé. On l'a trouvé après sa mort, mais elle nous l'a laissé. Et je crois que simplement, peut-être en relisant ces mots, en les faisant siens, vous voyez, eh bien, ces mots, ils vont porter la vie hein, qu'ils ont en eux pour que petit à petit, nous devenions conscients de ce mystère hein, qui est donné au baptême. Hein, c'est le grand mystère de notre vocation.
Voilà, bah écoutez, merci beaucoup frère Philippe Raguis. Peut-être pour finir, vous allez nous citer quelques ouvrages à lire, de façon à, si certains veulent prolonger cette émission.
Alors, il y a le livre de la canonisation, hein, est écrit par un frère carme de Paris, Didier Marigollet, aux éditions du Cerf. Ça s'appelle « Sainte Élisabeth de la Trinité, rayonnée Dieu ». Donc c'est un gros album.
Aux éditions
du Cerf.
Hein. Du Cerf.
Donc avec des photos, des textes. Enfin, vraiment, ça fait rentrer totalement dans son univers, dans son environnement et dans son message avec des textes, des commentaires. Enfin, c'est
magnifique.
Vraiment, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre absolu. Hein. Vraiment, je le recommande. Cadeau de Noël idéal. Après, il y a toutes les biographies qui sont parues. Une petite biographie de réédition de Bernard Cesset, notamment. Ça, c'est chez DDB, je crois, ou chez Arthège, je ne sais plus.
C'est chez Arthège.
Arthège, maintenant, voilà. Et puis, faut aussi lire les textes. Hein, les textes. Et moi, je conseille, par exemple, de Conrad de Mester aux éditions du Cerf, Élisabeth de la Trinité racontée par elle-même. Ce sont des extraits de ses lettres, des extraits de ses textes qui nous la font connaître de sa bouche même.
Merci beaucoup donc pour cette émission à la découverte de Sainte Élisabeth de la Trinité, ou alors qui s'appellerait donc aujourd'hui Louange de Gloire, comme elle le dit, ce nom qui serait celui que Dieu lui donne. Merci beaucoup frère Philippe Raguis d'être venu ce matin. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry, vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.